Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Martino.
Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino s'en régale.
Alors, nous sommes toujours avec Grégory Zaoui, le cerveau du scandale financier le plus important de l'histoire de France. Et je le répète, c'est une histoire qui, moi, me fascine. Je regardais ça avec Sophie, ma compagne, et on se pince à toutes les cinq minutes. Ça s'intitule « Les rois de l'arnaque », c'est sur Netflix. Donc, Grégory Zaoui avec nous. 50 prisons, est-ce que le jeu en valait la chandelle?
Non. Non, je vous l'ai dit tout à l'heure, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Non, c'est, enfin, j'étais condamné à plus que ça, mais sur le, sur ce à quoi j'étais condamné à 12 années de prison, qui ont été confusionnées en 8, et sur les 8, j'ai fait 5. J'ai même fait un peu plus que ce que je devais faire, et l'État doit m'indemniser d'ailleurs.
Indemniser?
Oui.
Non. Vous avez fraudé l'État de 11 millions de dollars, il doit vous indemniser.
Oui, parce que j'ai fait 10 mois de prison en trop, absolument.
il faut rappeler qu'en France, ce n'est pas un crime ce que vous avez fait, ce n'est pas considéré comme un crime, c'est un délit.
Absolument. En France, il y a la nuance entre les crimes et les délits. Tout ce qui est criminel, c'est tout ce qui touche les viols, les meurtres, les homicides, enfin même pas les homicides, c'est les meurtres, les assassinats, le terrorisme, les braquages, tout ce qui a des armes avec des armes à feu. Tout le reste, c'est délictuel. Les délits financiers, ce sont ça va dans la case délit. C'est du tribunal correctionnel, c'est pas de la cour d'assises. Et ce qui est très important pour moi de dire, et ce qui est réel, c'est que les délits financiers, ce sont les seuls délits qui restent des délits réparables par rapport à d'autres crimes ou d'autres délits qu'on ne peut jamais réparer. Un délit financier aujourd'hui, c'est un délit qu'on peut réparer. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'interpellent sur les réseaux sociaux, qui m'invectivent, parce que ce qu'il faut comprendre, contrairement à la mentalité qu'il y a en Amérique du Nord ou dans les pays anglo-saxons, c'est qu'en France, on n'accepte pas la rédemption. Si vous avez beau expliquer, moi je donne des conférences dans des grandes entreprises françaises.
C'est-à-dire que j'ai purgé ma peine et maintenant...
Voilà, j'explique comment ça s'est fait, surtout qu'il ne fallait pas le faire, j'essaye d'être le plus pédagogue possible, mais tous les jours sur Twitter, je me fais insulter « ta gueule, escroc, rends l'argent, voleur, tais-toi ». Vous voyez, c'est-à-dire que moi, si vous voulez, aujourd'hui, je suis condamné à perpétuité, sans possibilité de remise de peine.
Mais vous l'avez cherché, là.
Oui, non, mais
j'ai pleuré sur votre sort, là.
Non, mais j'ai été condamné, j'ai payé ma dette à la société.
Oui, mais en même temps, je vous ai posé la question trois fois. Est-ce que vous avez de l'argent encore de caché? Vous n'avez pas répondu.
Non, je garde ça.
Visiblement, vous avez de l'argent.
J'ai des producteurs avec lesquels j'ai des engagements. Je ne peux pas spoiler une histoire.
Ok.
Mais la question récurrente.
Vous allez sortir l'histoire.
Vous voyez la question que vous m'avez posée, où est-ce qu'il reste de l'argent, où aller, qu'est-ce qu'il y en a, il y en a en pas. C'est la question récurrente que j'ai depuis des années.
Mais c'est sûr.
D'accord. Donc à partir de là, c'est comme ça que j'ai construit
parce
la
que
suite.
Si vous profitez encore de votre crime en ayant à votre disposition de l'argent qui a été volé à l'État français, ben vous êtes toujours un fraudeur, là, vous comprenez. Là. Donc on va savoir la vraie histoire bientôt.
Et ben, vous allez voir que il y a Je peux rien vous dire, mais ça va en surprendre plus d'un. Et votre question, elle est totalement légitime et on me la pose tout le temps.
Vous savez, il y a des pirates informatiques qui, lorsqu'ils ont terminé leur carrière dans l'illégalité, soudainement travaillent pour les entreprises, pour les aider à devenir plus sécuritaires. À la fin de ce documentaire-là dans Netflix, Les Rois de l'arnaque, c'est écrit Monsieur Grégory Zaoui a été approché par le ministère des Finances pour partager son expertise dans les dossiers de fraude financière. Il a refusé. C'est vrai, ça?
J'ai été approché, j'ai été refusé parce que, si vous voulez, ce qu'ils m'ont demandé, ça s'approchait plus à être dans des systèmes de délation par rapport à des gens que je connaissais qui étaient encore dans d'autres fraudes. Et moi, ça, j'ai pas voulu. C'est-à-dire, moi, je veux bien apporter mon expertise, faire de la prévention.
Vous ne vouliez pas, on vous demandait de faire de la délation.
Ouais, c'était plutôt des trucs d'infiltration, okay. Délation, ça, je voulais pas
et
faire.
Et là, c'est écrit, il a pris des cours, il est allé au cours Florent. Pour
c'est
ceux
vrai.
Qui connaissent pas, le cours Florent, c'est le grand cours pour devenir comédien en France. Vous voulez faire comme Bernard Tapie, qui est devenu comédien pour les films de Lelouch, entre autres.
Ouais, ça, non, enfin, j'ai toujours aimé, moi, le cinéma fait partie de mes passions. Ma passion principale même, donc oui, et j'ai fait ces cours pendant que j'étais en cavale d'ailleurs, sous une autre identité.
Pendant que vous étiez en cavale,
absolument.
Pour devenir comédien.
Okay, absolument.
Moi, la question qui me fascine le plus, tous les gens qui ont participé à cette fraude-là sont visiblement des gens supérieurement intelligents. Vous êtes visiblement très intelligent parce que vous avez perçu cette faille-là dans le système. Et vous l'avez exploité. Pourquoi vous n'avez pas mis cette intelligence-là au service d'activités légales? Vous seriez, je suis convaincu, vous seriez devenu millionnaire de toute façon, visiblement.
Oui, mais il n'y a pas eu la cloche encore.
La cloche?
C'est pas fini. J'ai 52 ans, j'ai encore des années,
non,
je l'espère, devant moi.
À l'époque, là,
oui,
même
oui,
à l'époque,
oui, non, mais
là.
J'ai merdé. C'est-à-dire, je reconnais. C'est-à-dire, je suis pas fier de ce que j'ai fait. Je fanfaronne pas. Je suis pas du tout fier de ce que j'ai fait. Bien, vous avez totalement raison. J'aurais pu faire beaucoup mieux que ce que j'ai fait.
D'un côté, vous avez commis un délit, hein, parce que c'est en France, c'est un délit. De l'autre côté, l'État français et tous les gens qui étaient derrière le marché carbone, en ne protégeant pas suffisamment l'argent public, parce qu'ils disent là oui, mais c'est de l'argent qui aurait pu aller dans les hôpitaux, c'est de l'argent qui aurait pu aller dans les écoles, effectivement, mais vous n'avez pas protégé cet argent-là, vous avez permis à des fraudeurs de voler cet argent-là, donc c'est comme eux aussi ont gaffé et ont fait une faute majeure.
Alors écoutez, c'est très important, enfin c'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que moi, si vous voulez, comme j'ai passé des heures et des journées entières dans les cabinets des magistrats instructeurs dans ce dossier, où j'ai décortiqué, expliqué que de toutes les manières, la Caisse des dépôts ne pouvait pas ignorer ce qui s'y passait. Comme je vous expliquais tout à l'heure, le système des fax, ils voyaient quand même que c'était des choses qui n'étaient pas normales. Et si vous voulez, il n'y a aucun magistrat instructeur. En France, voilà, la justice, elle est indépendante, mais jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire qu'en France, l'État n'attaque pas l'État. Et d'ailleurs, la Caisse des dépôts, qu'est-ce qu'elle a fait au bout de 3 ans, quand l'enquête avait démarré? Ils se sont mis, pour se couvrir, ils se sont mis partie civile. Moi, dans mes procès, j'en ai eu 4, j'avais 2 parties civiles. J'avais l'État français, et en second, la Caisse des dépôts et consignations, qui, elle, a seulement demandé comme préjudice, comme réparation, 1 euro symbolique. Parce qu'ils avaient complètement merdé.
Mais
aujourd'hui, si vous voulez, avec tout ce qu'il y a eu, les séries, le film, les gens, ils comprennent. Et moi, quand on me dit, comme vous me l'avez dit tout à l'heure, l'argent, où aller, pourquoi, ceci, cela, moi, j'ai payé ma dette à l'OC, j'ai fait de la prison, effectivement. Mais moi, si demain, quand on me dit, oui, il rend l'argent, voleur, je dis, mais si l'État, d'abord, moi, si je rends l'argent, mes 5 années de prison, il n'y a personne qui va me les rendre, ça, premièrement. Et deuxièmement, vous êtes assez stupide de croire que si jamais cet argent un jour était recouvré, que l'État français va vous faire un chèque ou bien qu'elle va baisser vos impôts. Et là, les gens, ils n'ont pas de réponse parce que...
Mais oui, il y a deux choses là-dedans. Premièrement,
ben oui.
L'État français a agi comme, je ne sais pas, un banquier qui avait laissé la porte de sa banque ouverte.
Complètement.
Une fois la banque fermée, ça va chez lui, laisse la porte de la banque ouverte. Évidemment, les bandits entrent et se servent. Donc, il est responsable aussi d'avoir pas protégé suffisamment les gens. Et deuxièmement, régulièrement, et là, ce n'est pas pour vous déculpabiliser, absolument pas, mais régulièrement, l'État, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question que l'État nous vole aussi? C'est-à-dire que prend notre argent et nos impôts et s'en sert pour n'importe quoi.
Si l'État ne vous protège pas l'argent du public, le trésor public, ce qu'on appelle en France, elle a une part de responsabilité, mais en France, l'État n'attaque pas l'État. Donc, ils ont fait une connerie. Enfin, moi, je ne suis pas en train de dire que c'est de leur faute, c'est pas la mienne. Moi, j'assume. J'assume mes responsabilités. Mais ce que je voulais dire, c'est que.
Ils ont permis cette faille-là.
Moi, j'aurais bien voulu.
Quand il y a une faille, c'est sûr que quelqu'un va l'exploiter. Dans le documentaire, il y a Nicolas Huot, bon, ancien ministre de la Transition énergétique, un personnage important pour l'écologie, tout ça. Puis il dit, mais la taxe dans le documentaire, oui, mais quand même, le marché carbone, c'est important pour l'écologie, etc. Et jamais on n'aurait pensé que quelqu'un soit assez méchant pour voler l'argent. Là, on le regarde et on dit « Da, t'es naïf, mais c'est totalement c'est... naïf. »
Vous savez, on a un gros problème en France, c'est qu'en France, on ne fait pas de prévention, on n'est que dans la répression. C'est en France, on laisse faire des choses comme ça et en pensant que les gens vont bien se tenir. Et moi, ce que je voulais faire, ce que j'ai proposé à certains services de l'État, c'était justement de réfléchir à l'envers et de mettre en place des systèmes de prévention pour éviter la fraude. Parce que quand après la police et la justice se met à couvrir après les fraudeurs, elle a déjà perdu. L'argent est parti, elle est partie en fumée là pour ce qui est du carbone. Et il y a très peu de chances de les récupérer. Et après, mettre des gens en prison, et pendant des années, ça coûte encore de l'argent, des enquêtes, des gens...
Mais il y a des fraudeurs, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fraudé. Vous n'êtes pas le seul. On le voit dans le documentaire, évidemment, il y a plein de bandes d'escrocs qui ont vu l'affaire et qui se sont engouffrés là-dedans. Et on voyait que le marché surchauffait, mais que la plupart des transactions étaient des transactions qui étaient faites par des fraudeurs. Ces gens-là, certains ont été arrêtés, tout ça. J'imagine il y en a encore qui ont de l'argent planqué quelque part, là.
Ah oui, ils n'ont pas tout recouvré, de toute façon. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si demain l'État français recouvrait toutes ces sommes d'argent, elle ne fera pas un chèque au contribuable. Ça ne changera pas grand-chose.
Hier, je parlais à mon beau-frère, j'ai dit « Ah, je vais avoir M. Zawi demain à l'émission », puis il a dit « Ah, ben tu fais de la promotion, tu fais de la publicité pour un bandit. Est-ce que tu es fier de toi? Tu vas faire de la publicité pour un bandit. » Je dis non, je vais essayer de comprendre ce qui amène quelqu'un à faire ça. Et je vais essayer de comprendre comment ça se fait, l'État français, laisser cette faille-là. Et qu'est-ce que vous dites à mon beau-frère qui dit...
Qu'il a raison.
Tu fais de la promo un bandit.
Il a raison, mais moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, aujourd'hui, attention, parce que... Vous savez, tout à l'heure, vous avez parlé de Donald Trump, vous vous étonniez que quelqu'un qui a affaire à la justice puisse être... se présenter à une élection alors qu'il est né aux États-Unis, hein, qui n'est pas né aux États-Unis, mais... Moi, je me suis présenté à une élection pour devenir député. Et tout le monde m'a dit ce que vous avez dit tout à l'heure, la même réaction. Mais t'as été condamné. Comment tu peux te présenter à une élection?
Et si les gens votent pour vous, ils votent pour vous.
Alors, la réponse
est simple.
Personne les oblige à voter pour vous. En tout cas, aux États-Unis, je ne sais pas comment ça fonctionne. En France, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Si je n'ai pas été condamné à être inéligible, donc je le suis, ce qui était mon cas. Je n'ai jamais été condamné à être inéligible, donc j'ai pu me présenter à une élection, et là, je vais certainement me présenter aux européennes. Ça, c'est premièrement. Maintenant, concernant ce que votre beau-frère a dit pour l'histoire de la fraude, moi, j'ai pas seulement été condamné à rembourser toutes ces sommes et à des années de prison, j'ai également été condamné à vie à ne plus pouvoir exercer d'activité commerciale. Je ne peux plus rien faire.
C'est normal.
Je ne peux même pas être auto-entrepreneur. Je ne peux plus rien faire.
C'est normal.
Et les seules personnes qui m'ont tendu la main en France, quand il y a eu le documentaire Netflix, c'est dans l'entertainment. J'ai écrit un livre, c'est une maison d'édition. J'ai tourné deux films. J'ai fait un spectacle. J'ai mon show, mon one-man show en scène, sur scène. J'ai également... je prépare une pièce de théâtre aussi pour l'année...
Mais qu'est-ce que ça dit, ça? Qu'est-ce que ça dit, ça? Que les seuls qui vous ont pardonné puis qui vous trouvent fréquentable encore, c'est les gens d'entertainment puis les gens
des médias? Et puis il y a une raison économique aussi, c'est que c'est un sujet qui fonctionne. C'est un sujet, si vous voulez, parce que...
Ça fait faire des clics.
Vous savez, le premier selfie que j'ai signé de ma vie, c'était à l'époque des autographes, que j'ai fait, c'était à un policier. C'était le jour où je me suis rendu, je vous promets, c'était le 6 février 2019, je me suis rendu au palais de justice à Paris. Après, on m'a signifié mes mandats d'arrêt. J'étais mis sous mandat de dépôt, puis j'étais placé au dépôt. Il y a le policier qui était au dispatch, et il me dit « T'es là pourquoi, toi ?» Alors je lui dis, je suis là, je me suis rendu, c'est pour la fraude à taxe carbone. Il m'a dit, ah bon, c'est toi? Je lui dis, ouais. Et il prend mon nom, et il prend son téléphone à ce moment-là, et il tape sur Google mon nom. Et il y avait un tas d'articles qui venaient de sortir sur tous les radios.
Et là, il s'est fait prendre un selfie.
Grégory Zawi, machin, le cerveau de la taxe carbone, s'est rendu. Et il regarde, il me dit, oh là là, ah oui, c'est toi. Il me dit, est-ce que je peux prendre une photo? Il me tutoyait, est-ce que je peux prendre une photo avec toi? Alors je lui dis, ouais, allez-y, faites-vous plaisir.
Donc vous êtes devenu un people.
Attendez, donc on fait ce selfie, et moi-même, j'ai la même réaction de votre beau-frère. Je lui dis, mais excusez-moi, y a pas un petit problème là, vous êtes policier, là je vais en prison pour payer ma dette à la société, et vous êtes policier, vous êtes là pour faire régner la loi et l'ordre, et vous êtes en train de me dire, vous faites une photo avec moi? Écoutez sa réponse, hein. Il me dit, moi, l'État, il me baise tous les jours, ça fait des années. Et ben quand il y en a un qui les baise, et ben je suis bien content, chapeau. Il m'a dit, vous avez pas violé, vous avez pas tué, vous avez pas fait couler de sang, vous avez pas volé des vieux, vous avez pas arnaqué des sociétés, vous avez pas arnaqué des gens. Bon, il m'a dit, l'État, elle baise tout le monde. Et ben bravo, félicitations.
ceux qui me baissent sont mes amis. Mais
moi, je suis pas d'accord avec ça, attention. Hein.
Mais cela dit, quand on dit c'est de l'argent qui aurait pu être utilisé dans le système de santé à l'école...
C'est ce que dit le procureur Amar.
Vous avez des proches, j'imagine, qui ont été soignés par le système de santé, qui ont été soignés, tout ça. Ben, le système de santé a besoin de cet argent-là. Si tout le monde se met à faire comme vous, on ne pourrait plus soigner les gens. Là, on ne pourrait plus éduquer les gens.
Mais ils ont qu'à utiliser les gens communs pour éviter de se faire baiser. Ça peut être pas mal. En amont.
Mais écoutez, vous dites que vous préparez une pièce de théâtre.
Oui, j'ai mon spectacle et j'ai aussi une autre pièce de théâtre qui n'a rien à voir.
C'est quoi le spectacle? C'est que vous racontez cette histoire?
Oui, exactement. Mis en scène, absolument. Et d'ailleurs, la phrase d'accroche, c'est « ils avaient qu'à faire attention ».
Ils avaient qu'à faire attention.
C'est mon père qui avait trouvé ça spontanément, qu'on cherchait une phrase d'accroche. Il m'a dit oui, c'est vrai, ils ont fait n'importe, ils ont laissé faire.
Mais en même temps, je vais vous dire, moi je me promène dans la rue et je vois une maison avec la porte ouverte. Je n'irai pas entrer dans la maison puis voler. En même temps, et puis je ne dirais pas, il n'y avait rien qu'à faire attention, c'est que moi je suis fait comme ça. Je n'irai pas voler dans une maison, non, mais même si la porte est ouverte.
C'est très bien, c'est comme ça qu'il faut être.
Mais vous, avant cette grosse arnaque-là, vous aviez fait des combines, d'autres petites combines.
Non, c'était dans le même registre. Seulement, c'était pas sur des quotas carbone. Mais là, c'était un bien immatériel. C'est avant, je l'ai fait sur des biens matériels, principalement sur des téléphones mobiles. J'en ai fait des je suis l'un des premiers en Europe à.
Vous achetez des téléphones mobiles dans un pays de la communauté de France,
et j'ai revendé dans d'autres pays de la communauté avec la TVA. Mais ça, moi, j'ai fait ça, si vous voulez. J'ai pas fait ça en France beaucoup. Enfin, je l'ai quasiment jamais fait en France. Parce que j'ai un proverbe anglais que j'avais repris, c'est Don't cheat where you live. Donc, oui. Si vous voulez, je gérais ça depuis la France. J'achetais mes téléphones en Grande-Bretagne et je les exportais au Danemark, chez les Vikings. Et pourquoi le Danemark? Parce que c'était le pays qui avait la TVA la plus élevée d'Europe. Elle était à 25%. Quand à l'époque où je le faisais, la France était à 18,6%. C'était le même travail, pourquoi je vais m'emmerder, alors je vais gratter 6 ou 7 points de plus là-bas chez les Vikings.
Mais vous me disiez tantôt, j'ai rien à faire avec les petits escrocs, là, que je viens d'un certain milieu, classe moyenne, je ne sais pas.
Pauvre.
Qu'est-ce qui vous a amené à
la cupidité, l'argent, la motivation de l'argent, de pouvoir offrir une vie meilleure à mes parents, à ma famille. J'aurais pas dû le faire, mais moi, cet argent-là, je suis pas Robin des Bois. Hein. J'ai pas donné à des pauvres. J'ai fait du bien autour de moi, mais j'ai surtout permis à ma famille de mieux vivre, moi aussi, au passage.
Et l'adrénaline, est-ce que ça comptait aussi? Est-ce que ça devient comme une drogue, l'adrénaline? De savoir qu'on fait quelque chose d'illicite, d'illégal, puis je me fais pas prendre. Et là, vous êtes, mettons, en train de prendre un verre dans un bistrot à Paris, puis vous dites, je suis peut-être un des plus grands fraudeurs de l'histoire de France, et les gens ne le savent pas autour de moi. Mais moi, j'ai fait ça.
Non, mais là, ils le savent maintenant.
Oui, mais à l'époque, est-ce qu'il y avait un peu ça aussi, l'hubris, le côté...
C'est-à-dire que moi, comme j'étais discret, j'étais discret tout en étant flamboyant. C'est-à-dire, j'étais toujours très bien habillé, j'avais des très belles voitures. Mais pour vous donner un exemple, quand j'allais chez Mercedes ou BMW m'acheter une voiture, je demandais en la commandant, en la configurant, je ne voulais pas qu'il y ait marqué le moteur, pour pas qu'on sache que c'était un V12. C'était ma façon à moi d'être discret. Je ne suis pas... Enfin, vous savez, on dit que les marques comme Vuitton... Gucci, toutes ces marques-là qui sont très voyantes, qui valent cher, mais en fait, elles s'adressent à des pauvres qui veulent faire croire qu'ils sont riches. Les vrais riches, on voit pas ce qu'ils ont sur eux. Ils préfèrent la discrétion. Moi, je viens pas d'une famille riche, mais je faisais partie, j'avais cette vision-là du luxe. C'est-à-dire, il fallait avoir des belles choses, mais il fallait pas que ça se voit et que ça se sache. J'ai toujours été discret par rapport à ce que vous avez vu aux autres.
Et en terminant, vous dites que vous aimez le cinéma. Je ne sais pas si vous connaissez le film Goodfellas de...
Oui, bien sûr, Les Affranchis.
Les Affranchis. L'histoire d'un gars qui est devenu très riche avec la coke, il vendait de la coke. Et à la toute fin, il se fait pincer, on change son identité, puis il se retrouve, il y a un petit boulot quelque part dans un petit village. Et il dit, maintenant, je suis un schmuck comme n'importe qui. Ce gars-là avait un regard méprisant sur ceux qui se levaient le matin, puis allaient travailler, puis qui payaient leurs impôts, puis il dit « Maintenant, je suis un schmuck comme eux. Est-ce que c'est ce que vous vous dites maintenant, aujourd'hui? J'ai vécu la belle vie, maintenant, je suis un... »
Non, pas du tout, parce que, aujourd'hui, vous parlez de Henry Hill, qui est décédé il y a quelques années. Non, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, j'ai la lumière. C'est encore autre chose. J'ai la lumière, j'ai
les projecteurs.
Les projecteurs, oui. Et j'ai un point commun avec ce film. Je veux dire, c'est quoi? C'est que Robert De Niro, ça a été mon locataire. J'étais propriétaire des murs de son restaurant Ago à Los Angeles.
Ouais. Écoutez, donc, mon beau-frère va me dire, je te l'ai dit, que t'as fait de la promotion d'un bandit. Merci beaucoup.
Merci de m'avoir reçu.
Merci beaucoup, monsieur. C'est donc, c'est quoi les prochains
Alors, j'ai un film à biographie qui sort au cinéma et après sur Amazon Prime au mois de septembre, qui raconte mon parcours, mon histoire. La suite des Rois de l'Arnaque, qui doit être faite. Il y a des producteurs américains qui veulent me rencontrer pour faire, parce que j'ai eu un article dans le New York Times le 29 février, et ils veulent faire l'adaptation de cette histoire pour le cinéma américain. Et la suite des Rois de l'Arnaque, ça sera un spin-off sur moi, avec la thématique sur laquelle vous m'avez attaqué, où est passé l'argent.
Où est passé l'argent, voilà. Est-ce qu'il y a la phrase d'accroche, de planqué de cet argent-là?
C'est flic, public, justice, je ne vous ai pas tout dit.
Écoutez, c'est une histoire vraiment incroyable. Si vous n'avez pas vu Les Rois de l'Arnaque, c'est sur Netflix. Grégory Zawi, merci de votre passage en studio.
Merci de m'avoir reçu.
Merci, au revoir.
Au revoir.